Cher ami, merci de vous être joint à moi. Nous allons nous plonger dans un message intitulé « Intercession pour une ville méchante ». Nous abordons des domaines que je n'aborde pas habituellement dans mes prédications, mais vous allez trouver cela bénéfique. Si vous avez une Bible, prenez-la, asseyons-nous ensemble et voyons ce que nous pouvons apprendre. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Je pense que beaucoup de croyants se contentent de bien moins que ce que Dieu désire pour eux. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo qui m'a fait rire. Une femme a un sac de cacahuètes et elle s'agenouille pour donner une cacahuète à un écureuil, qui hésite un peu. Elle lui dit « Viens, n'aie pas peur !» Tout à coup, l'écureuil se précipite sur elle, attrape tout le sac de cacahuètes et s'enfuit avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passe. L'écureuil savait qu'il y avait davantage. Je pense que bien souvent, nous ne cherchons qu'une fraction de ce que le Père veut nous donner. Nous pourrions avoir davantage de sa présence, davantage de sa provision, davantage de sa protection, davantage de sa puissance, davantage, davantage, davantage. Pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10? Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Eh bien, si vous lisez le 19e chapitre, il est question de Lot et de sa famille. Lot était un homme juste, dit la Bible. Les Écritures mentionnent les gendres de Lot au pluriel, ce qui signifie qu'il a deux filles mariées et deux gendres. La Bible parle des fils de Lot au pluriel. Lorsque Lot a quitté Sodome, deux de ses filles vierges l'ont accompagné, puis il y avait Lot et sa femme. Combien cela fait-il? 10. Abraham pensait que Lot avait au moins atteint les membres de sa propre famille. Mais il n'en avait atteint aucun. Ses gendres lui ont ri au nez et l'ont trouvé ridicule. Ses fils sont restés à Sodome. Ils ne sont pas partis avec lui. Ses filles mariées sont également restées à Sodome. Quand ils sont partis, sa femme avait tellement envie de rester vivre là-bas qu'elle s'est retournée et a été transformée en statue de sel. La première chose que ces deux filles ont faite après leur départ, c'est de l'enivrer et de coucher avec lui. Elles sont toutes deux tombées enceintes de leur père. Spirituellement parlant, ces filles étaient perdues. Il n'a atteint aucun membre de sa propre famille, ce qui, je pense, illustre l'un des facteurs clés pour atteindre nos villes pour Christ et faire en sorte que nos villes soient sauvées et rachetées. C'est d'atteindre nos propres familles. Votre premier champ de mission est votre famille. Mon premier champ de mission, ma première église, c'est ma famille. Si cela ne fonctionne pas chez moi, pourquoi le faire ailleurs? Atteindre votre propre famille, vos enfants, vos frères et sœurs et vos proches, ce n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement important et cela affectera les villes dans lesquelles vous et moi vivons. Je pense qu'il est également important de comprendre que le fait d'intercéder en faveur de Sodome n'a pas dû être naturel pour Abraham. En fait, naturellement parlant, c'est probablement quelque chose qu'il n'était pas disposé à faire. Il aurait pu dire « ce n'est pas mon problème ». Il les connaissait, il avait déjà eu des interactions avec eux. Il a même dû les sauver par l'épée. Maintenant, il essaie de les sauver par ses prières. Il aurait pu dire « il était temps que Dieu juge tous ces pervers. Je sais ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. J'ai entendu parler de tout ce qu'ils font. » Mais ce n'était pas du tout l'attitude qu'Abraham a adoptée. Même lorsqu'il s'agit de son neveu Lot, Lot n'avait causé que des problèmes à Abraham jusqu'à ce jour, rien que des ennuis. Vous pouvez lire cela en Genèse 13. La Bible dit qu'il y avait un conflit entre les bergers du bétail de Lot et les bergers du bétail d'Abraham. Lot n'a jamais rien fait pour résoudre le problème. Abraham a dû venir voir Lot et lui dire « Lot, nous sommes une famille, nous ne devrions pas nous disputer. » Abraham s'est même humilié en disant « S'il te plaît, réglons ce problème. Choisis l'endroit où tu veux aller. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Si tu choisis la gauche, j'irai à droite. » Lot choisit donc l'endroit le plus favorable, la terre la plus arrosée, et laisse les restes à Abraham. Lot n'a montré aucun respect et aucune déférence envers Abraham. Abraham aurait pu dire « Oh, Lot a des problèmes à Sodome. » Je ne suis pas surpris, mais ce n'est pas mon problème. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. J'étais certain que cela allait arriver. C'est dommage, c'est triste pour Lot. Mais Abraham n'était pas comme ça. Dans le psaume 35, le roi David parle de ceux qui lui ont rendu le mal pour le bien. Il dit « Je leur ai fait du bien et ils m'ont récompensé par le mal. Quand ils étaient malades, j'ai jeûné et j'ai prié pour eux. » J'ai un ami qui a été trahi par un collègue. Ce n'était pas une petite trahison, c'était une très grande trahison. Il a causé à mon ami un chagrin incalculable. Cela lui a coûté cher sur le plan financier et cela l'a beaucoup affecté sur le plan émotionnel. L'homme qui l'a trahi est tombé malade et s'est retrouvé à l'hôpital. Savez-vous qui a été le premier à aller prier à l'hôpital pour son rétablissement? Mon ami. Cela en dit long sur lui, il est allé s'agenouiller au chevet de l'homme et a prié pour sa guérison au lieu de dire « C'est bien fait pour lui, on récolte ce que l'on sème ». Dans le livre de Job, les amis de Job sont devenus ses accusateurs. Ils l'ont accusé de péchés qu'il n'avait jamais commis. Ils ont tenu des propos étranges sur Job. Ils l'ont rabaissé et ils lui ont dit qu'il méritait pire que ce qu'il recevait. Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis. Ainsi, lorsqu'il a prié pour ses accusateurs, Dieu a renversé la captivité de Job et a commencé à lui rendre tout ce qu'il avait perdu. Priez pour les personnes que vous n'aimez pas. Priez pour les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. La puissance du Saint-Esprit s'exercera sur elles et votre vie en sera également bénie. Dieu recherche des personnes qui se tiennent à la brèche et qui prient. Ésaïe 59, 16a dit « Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. » Ézéchiel 22, 30 « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Saviez-vous que Jésus lui-même a enseigné le pouvoir d'un intercesseur et comment il peut réellement empêcher la destruction et donner à une personne l'occasion de se repentir et de remettre sa vie en ordre? L'intercession peut faire cela. J'aimerais vous lire un extrait de Luc 13 qui raconte une histoire intrigante. Luc 13, 1 à 9. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. En d'autres termes, il les a assassinés alors qu'ils offraient des sacrifices. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. » Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Dans la petite parabole que Jésus a racontée, il a expliqué pourquoi la tragédie est arrivée à certains et n'est pas arrivée à d'autres. Dans l'histoire de la parabole, il y a un figuier planté dans une vigne. Et la destruction est sur le point de s'abattre sur ce petit arbre. L'homme dit « Coupe-le ». Et que se passe-t-il? Un intercesseur se tient à la brèche et dit « Attends, donne-lui plus de temps, attends. Je vais le fertiliser, je creuserai autour, donne-lui une année de plus. » C'est uniquement grâce à l'action d'un intercesseur que cet arbre n'a pas été détruit. La tour de Siloé ne s'est pas abattue sur certains d'entre vous parce que quelqu'un a prié pour vous. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est grâce aux prières de quelqu'un. Je suis persuadé que je suis encore en vie et sauvé aujourd'hui parce que quelqu'un a prié pour moi. Cette personne ne savait peut-être même pas pour qui elle priait, et j'espère la rencontrer lorsque j'irai au paradis. Au milieu de la nuit, cette personne s'est agenouillée et a dit « Seigneur, quelqu'un a encore des ennuis ?» Cette personne s'est mise à genoux et a gémi, prié et supplié Dieu. Dieu a envoyé ses anges et j'ai été épargné. J'en suis absolument convaincu. J'avais un ami, qui est d'ailleurs toujours un ami aujourd'hui, qui est dans le ministère depuis de nombreuses décennies et qui est un ministre puissant de l'Évangile. Cependant, il a longtemps mené un style de vie démesuré, truffé de bêtises. D'ailleurs, il a passé un temps dans une institution à cause de sa consommation excessive de drogue. Il avait perdu la tête. Il avait une maman qui priait. Sa mère a prié pour lui et a prié pour lui et a prié pour lui et a prié pour lui. Mais il semblait aller de plus en plus mal. Sa mère est morte. Le pasteur a conduit la cérémonie, a parlé du salut et a même lancé une invitation au salut. Une personne a répondu, « Mon ami ». Il a été sauvé à l'enterrement de sa mère. Il a consacré sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il prêche l'évangile de Christ depuis environ 40 ans. Sa mère n'était plus là, mais ses prières étaient toujours à l'œuvre. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est peut-être un vieil homme baptiste qui aimait Jésus il y a plusieurs générations, qui a donné sa vie à Dieu et a prié pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Vous êtes ici aujourd'hui parce qu'un vieil homme baptiste s'est agenouillé et a pleuré à chaudes larmes pour sa famille. Nous ne pouvons pas savoir à quel point nos prières ont un impact. J'avais un ami qui s'appelait Steve lorsque j'ai été radicalement sauvé. Il n'était pas content, car j'étais un de ses amis proches qui lui fournissait de la drogue et qui se droguait avec lui. J'avais fini tout ça, et il n'était pas content. J'avais le cœur brisé pour lui. J'ai prié. Je le gardais dans mes pensées et mon cœur. Pendant plusieurs semaines, j'ai prié sans relâche. En 1976, des connaissances avaient invité un groupe chrétien appelé Bethléem sur le campus de l'université, et ils ont donné un concert sur le campus de l'université. J'étais assis au premier rang lorsque le chanteur a lancé une invitation en disant que tous ceux qui veulent accepter Christ s'avancent. Le silence était assourdissant, rien, c'était gênant. Mais il a continué. Y a-t-il quelqu'un ici dont la vie a été bouleversée? Vous avez entendu l'évangile et vous devez accepter Jésus. Aucune réaction. Tout à coup, j'entends un sanglot au fond de la salle. Quelqu'un pleurait de plus en plus fort. Je me suis retourné et c'était mon ami Steve. Il marchait dans l'allée, en traînant les pieds. Il pleurait tellement qu'il pouvait à peine marcher. Il arrive sur scène et s'effondre dans les bras de l'homme qui avait lancé l'invitation. Il a donné sa vie à Jésus et deux semaines plus tard, j'ai imposé les mains à Steve, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a parlé en d'autres langues et qui est devenu un serviteur du Seigneur. Dieu vous mettra des personnes sur le cœur. Parfois, ce genre de choses se produit rapidement, alors que parfois, cela prend plus de temps. Dans l'histoire, l'homme dit « Voilà 3 ans que je viens ». Le vigneron répond « Encore 1 an ». Je prie pour certains de mes amis depuis 49 ans. Je prie toujours pour eux, sans cesse. Certains amis avec lesquels je courais ne sont toujours pas sauvés. Certains de mes amis ont rencontré Jésus, mais ne servent pas le Seigneur en ce moment. Cela fait près de 50 ans que je prie pour eux et je ne vais pas m'arrêter. Mes prières ont un impact. Mes prières empêchent la tour de Siloé de leur tomber dessus. Mes prières et celles des autres peuvent maintenir les gens en vie suffisamment longtemps pour qu'ils puissent se repentir et que leur cœur change intérieurement, ce qui se traduit extérieurement par un changement de direction qui les fera se détourner de leur péché et se tourner vers Dieu. Certains se disent, « Je ne ressens pas vraiment le fardeau de prier pour qui que ce soit. » Abraham a dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. » Il suffit d'avoir l'audace de prier. Le Nouveau Testament dit, « Encouragez-vous. » Vous n'avez peut-être pas le fardeau, mais priez quand même. Si vous faites cela, le Saint-Esprit s'emparera de vous et vous comprendrez ce que c'est que d'avoir un fardeau de la prière. Certains d'entre vous se retrouveront à un niveau de prière qu'ils n'ont jamais atteint auparavant. Dieu veut vous y amener, mais vous devez avoir l'audace de prier quand vous ne ressentez rien. Je n'ai personne sur mon cœur. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un de votre quartier, quelqu'un avec qui vous faites du sport, un collègue de travail. Vous connaissez forcément quelqu'un. Ayez l'audace de prier. Le Saint-Esprit peut utiliser cela et se joindre à vous pour vous amener à un niveau de prière beaucoup plus profond. Voici quelques éléments de prière lorsque nous intercédons pour les autres. Trois choses simples. Premièrement, prier pour la reconnaissance de leurs péchés et de leurs besoins d'un sauveur. Il n'y a pas de salut sans repentance. Certaines personnes entendent « sauver » et disent « sauver de quoi ?» De quoi dois-je être sauvé? Pourquoi dois-je être sauvé? En fait, il s'agit d'être sauvé du péché et des conséquences éternelles qu'il engendre. Certaines personnes ont besoin qu'on leur ouvre les yeux pour que leur cœur soit convaincu de leur péché aux yeux d'un Dieu saint et que leurs yeux s'ouvrent sur leur besoin d'un sauveur. Ensuite, il faut prier pour que Dieu ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils voient que Jésus seul est ce sauveur. Il ne s'agit pas d'adhérer à un groupe d'entraide, ni de créer une liste de bonnes résolutions à tenir, ni changer ses habitudes alimentaires. C'est Jésus, lui seul est notre sauveur. Enfin, troisièmement et dernièrement, priez pour qu'ils aient le courage de faire appel au nom du Seigneur et de se soumettre entièrement à lui, quelles que soient les conséquences. Consacrer sa vie à Jésus entraîne des conséquences, en particulier avec votre famille et vos amis. En voici un exemple. Une jeune femme qui avait été radicalement sauvée est venue me dire « Pasteur, mon père m'a renié. Il appartient à une autre grande religion mondiale et il m'a dit « Je n'ai plus de fille, tu es morte pour moi ». Elle a dit, « J'ai le cœur brisé, j'aime mon père et je veux qu'il fasse partie de ma vie, mais je ne quitterai pas Jésus. Ce que j'ai est réel. » Parfois, des choses comme ça arrivent. Je me souviens que nous avons reçu une lettre d'un homme il y a de cela, plusieurs années, et lui et sa famille vivaient dans une petite cabane au bord d'une briqueterie, dans une zone rurale de leur pays. Nous avons doublé les messages de Cottonwood dans leur langue maternelle. Ils avaient un petit téléviseur noir et blanc avec des antennes et ils visionnaient les messages de Cottonwood dans leur langue maternelle. Le père de famille a donné sa vie à Dieu. À l'époque, il travaillait à la briqueterie en tant qu'ouvrier, il fabriquait des briques. C'était une région du monde dominée par une autre grande religion et le contremaître de la briqueterie a découvert que lui et sa famille étaient devenus chrétiens et il l'a licencié. J'ai reçu une lettre de cet homme qui disait « Il n'y a pas d'autre travail disponible à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Nous n'avons pas de véhicule, je n'ai aucun moyen de subvenir aux besoins de ma famille, nous sommes persécutés. » Il n'a pas demandé d'argent, il a seulement demandé, prié, pour que ma famille et moi ayons le courage de servir Jésus fidèlement. Le monde n'est pas digne de gens comme ça. Mais cela arrivera. Jésus a dit, « Ils m'ont persécuté. » Ils vous persécuteront aussi. Quand j'ai été sauvé, il s'est passé des choses, certainement pas au niveau de cet homme, mais j'ai perdu la moitié de mes amis, car ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. J'ai perdu ma petite amie, que j'avais emmenée à la mission de rue quelques jours après avoir été sauvé, pour qu'elle entende l'Évangile. Après la mission, elle me dit, « Tu es trop impliqué dans cette histoire, tu dois faire un choix, soit Jésus, soit moi. » J'ai répondu, « Je t'aime, mais adios. » Je ne l'ai jamais revu depuis ce soir-là, je ne lui ai jamais reparlé. Je n'ai pas quitté Jésus à ce moment-là et je ne le quitterai pas maintenant. J'ai loué une chambre à une femme au-dessus d'un bar. Et on se défonçait tout le temps ensemble. Elle m'a mis dehors quand j'ai été sauvé en disant « c'est trop ». J'étais peut-être un peu excessif, peut-être le suis-je encore, mais je ne vois pas le christianisme autrement. Je pense que nous devons être sages et faire en sorte que notre discours soit assaisonné de sel et non noyé dans le sel. Je suis toujours comme ça, il est réel, le paradis est réel, c'est réel. Un de mes amis avait organisé un événement en invitant toutes les églises du pays à venir et il avait invité l'athée le plus connu du pays à venir parler à tous les pasteurs. L'athée lui a demandé « De quoi voulez-vous que je parle ?» Il a répondu « Je voudrais que vous nous disiez pourquoi, selon vous, beaucoup de gens dans notre pays ne vont pas à l'église. » Il a dit « D'accord. » La salle était remplie d'environ 300 pasteurs et il a commencé en disant « Je me sens comme un lion dans la fosse au Daniel. » Tout le monde a ri, car c'était une bonne entrée en matière. Et il dit « On m'a demandé de dire pourquoi les gens dans notre pays ne vont pas à l'église. » Voici pourquoi. Si ce que vous dites est vrai, si Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu, et que mourir sans avoir accepté Christ signifie qu'on va passer l'éternité en enfer, ce doit être le plus grand blasphème devant Dieu que de ne pas être absolument passionné par le message que vous prêchez. Je ne vois aucune passion dans la chair. Ce doit être le plus grand péché devant Dieu. Si les gens vont vraiment mourir, qu'il y a un paradis et un enfer, si c'est vrai et que vous n'êtes pas passionné, ce doit être le plus grand péché devant Dieu. Il a attiré l'attention de tout le monde. Personnellement, je pense qu'il a raison. Dans les évangiles, Jésus a dit « Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple dans cette vie avec des persécutions et héritera de la vie éternelle. » Parfois, quand nous disons oui à Jésus, nous perdons beaucoup de choses. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie, dans une petite mesure, mais je peux aussi dire que j'ai expérimenté l'autre côté. Jésus m'a béni bien plus que je n'ai souffert. J'ai une famille et des amis comme je n'en avais jamais eu. J'ai une femme absolument géniale et j'ai encore toujours l'impression de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir mérité une épouse comme elle. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce que Jésus a dit est absolument vrai. Nous allons prier ces trois choses pour d'autres personnes dans un moment. Nous avons bientôt terminé et vous pourrez partir dans quelques minutes. Nous connaissons tous quelqu'un. Il peut s'agir d'un collègue de travail, d'un frère, d'un parent, d'un enfant, de quelqu'un avec qui vous faites du sport ou de quelqu'un du voisinage. Nous allons les amener devant Dieu. Vous n'avez peut-être pas de fardeau, mais ayez l'audace de prier pour eux. Nous allons prier pour ces trois choses. Mais d'abord, j'aimerais vous donner l'occasion d'agir si votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Vous avez l'occasion de changer cela. C'est le dimanche du Super Bowl et vous êtes ici à l'église. Je sais qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui travaille dans les coulisses et qu'il vous a amené ici. Que vous soyez venu avec votre famille, vos amis, il essaie d'attirer votre attention. Il vous aime. Il ne s'agit pas de règles et de règlements. Il ne s'agit pas de faire disparaître tout le plaisir de votre vie. Au contraire, lorsque vous commencez à marcher avec Jésus, c'est la plus grande des aventures. Ce n'est certainement pas sans tempête, mais ce n'est pas ennuyeux. Si vous dites « Jésus est Seigneur et je m'ennuie », c'est que vous n'avez pas le bon Seigneur. Lorsque Jésus est votre Seigneur, vous ne vous ennuyez pas, car vous marchez et parlez avec le Créateur de l'univers. J'aimerais prier avec vous. Peu importe l'endroit où vous êtes en ce moment, nous allons prier ensemble. Pendant une minute, fermez les yeux si cela vous aide à éviter les distractions. Si vous saviez que vous allez mourir maintenant et que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu, cette prière est pour vous. Je vais vous guider dans une prière simple. Je vais vous donner quelques mots qui ne signifieront rien si vous ne les accompagnez pas d'un cœur sincère. Mais si vous nouez votre cœur autour de ces mots et que vous les adressez sincèrement à Dieu, il vous rencontrera. Il vous aime, mon ami. Voulez-vous prier cela à haute voix après moi? Mettez votre main sur votre cœur et dites simplement « Seigneur, je m'humilie devant toi. Je crois que tu m'aimes tellement que tu as envoyé ton Fils pour mourir pour moi. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Mais je l'accepte. Jésus, je crois qu'après être mort à ma place, après avoir payé entièrement ma dette, tu es ressuscité d'entre les morts. Je te confesse maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Mon ami, j'espère que vous venez de faire cette prière avec nous. Si c'est le cas, Dieu vous a entendu. J'aimerais vous encourager à vous procurer une Bible et à commencer à la lire surtout le Nouveau Testament. Parlez à Dieu tous les jours, c'est ce qu'on appelle la prière. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez des besoins, dites-le lui. Ensuite, faites silence et écoutez sa voix qui parle à votre cœur. Ensuite, parlez de Jésus à quelqu'un d'autre. Cette nouvelle est trop bonne pour que nous la gardions pour nous. Parlez-en à votre famille, à vos amis, partagez votre histoire avec eux et dites-leur que Jésus les aime. Ensuite, trouvez une bonne communauté de croyants. Faites partie d'une église qui enseigne la Bible, qui n'a pas honte du nom de Jésus, qui croit au salut et qui croit qu'il faut porter l'Évangile au monde. Je prie pour qu'il y ait un tel endroit près de chez vous. J'aimerais également vous encourager à continuer à regarder notre émission. Si vous n'avez jamais communiqué avec nous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous aimerions entendre votre histoire. À bientôt. Saviez-vous que la Bible dit que Dieu souhaite nous accorder des bienfaits au quotidien? Jésus a expliqué que nous pouvons être nourris chaque jour par la parole de Dieu. Les habitudes que nous pratiquons chaque jour sont celles qui nous façonnent. Je vous encourage à visiter notre page web pour lire nos méditations quotidiennes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous contacter pour recevoir des emails quotidiens afin de lire la parole de Dieu. Cela vous permettra d'être encouragé et fortifié par Dieu chaque jour et de trouver un nouvel espoir tous les jours.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.